Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On est ici pour un programme qu'on a baptisé Capsule. Il s'agit d'un programme de plongée qui vise à faire vivre des plongeurs sous la mer pour pouvoir étudier ce qu'on ne peut pas faire habituellement le temps d'une incursion.
On est bien entre curieux.
Là, on va vivre plusieurs jours dans l'océan pour étudier le récif de Moorea et ses habitants.
Sur RTL.
Deux aventuriers des profondeurs au micro de la curiosité, deux scientifiques dans notre émission. Bonjour Laetitia Edouin.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Soyez la bienvenue, vous êtes chargée de recherche au CNRS, spécialiste des coraux. On va plonger avec vous et avec vous, Guylain Bardou. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue.
Directeur fondateur des expéditions Under the Pole. Guylain Bardou, ça fait 10 ans que vous parcourez les mers, les océans, la profondeur de ces océans. Qu'est-ce qui vous intéresse tout au fond là-bas, dans cet espace finalement auquel on n'a pas accès, ça nous échappe et on est nombreux à l'ignorer en fait.
Alors, je crois que c'est justement ça qui est intéressant, qui est passionnant en fait. Et qu'est-ce qui nous anime, c'est la curiosité, c'est l'envie d'aller voir, l'envie d'aller chercher des réponses à des questions qu'on peut se poser à tout âge.
Parce qu'il y a des mystères dans ces océans, beaucoup encore.
Les océans, c'est un des univers de la planète qui est les plus mystérieux. D'ailleurs, c'est un de ceux qu'on connaît le moins bien. Les scientifiques disent en général qu'on n'en connaît que 5 à 10% de la diversité animale ou végétale. Et ça en dit long, en fait. Oui, je pense qu'on en a pour des générations et des générations et des siècles d'exploration, de découverte et de recherche pour toujours les connaître un petit peu mieux.
Alors que c'est ce qui couvre l'immense majorité de la surface de notre planète. C'est pas pour
70%.
Rien. Voilà, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la planète bleue. Vous étiez venu, Guylain Bardou, nous parler d'une mission en profondeur en Arctique, c'est ça? Et vous aviez évoqué la biofluorescence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous aviez découvert là-bas?
Alors, c'était le premier volet, effectivement, du cycle d'expédition actuel qui a commencé en 2017. On avait commencé en Arctique à la recherche de cette fluorescence. La question qui nous animait à l'époque, donc pareil, on était avec un scientifique du CNRS qui s'appelait Marcel Coquen. Et l'idée, c'était d'aller voir, d'essayer de trouver des molécules qui fluorescent. Et pourquoi en Arctique? C'est-à-dire, la fluorescence, c'est un phénomène physique qui va transformer la lumière reçue, qui va la réémettre d'une autre manière, avec d'autres couleurs, par exemple. C'est un phénomène qu'on trouve dans la nature, qui permet aux animaux de communiquer entre eux, à des fins de prédation, à des fins de reproduction, de camouflage. Et ce qui est particulier, c'est que donc il y a besoin de lumière. Or, en Arctique, c'est quand même une région du monde qui est marquée par la nuit polaire, le jour polaire. Et donc, on essaie de trouver des nouvelles molécules, ou en tout cas d'inventer toutes les molécules susceptibles de fluorescer. On en a trouvé beaucoup moins justement que là où elles sont présentes massivement en général dans les régions tropicales, mais on en a trouvé tout de même.
Alors, nouvelle aventure pour l'équipe d'Under the Pole 3, direction la Polynésie française. Et c'est là que vous avez travaillé avec Laetitia Edouin. Pourquoi cette région? Quel mystère vous vouliez explorer dans ces fonds polynésiens?
Vous vouliez avoir chaud, soyez honnête.
Franchement, ouais. Après 10 ans de polaire avec Under the Pole en Arctique. Non, en fait, pour de vrai, on était avec la volonté d'aller en Antarctique, dans le Grand Sud, pour voir, hein, puis mettre un petit peu notre expérience acquise en mer polaire en Arctique, mais dans le Grand Sud, cette fois-ci, qui est une région très froide, mais très différente aussi. Et tout ça nous faisait passer par les régions tropicales, sur la descente, et plutôt que de les traverser rapidement, on s'est dit, en fait, on va prendre le temps, on va s'y arrêter, et donc on a fait un appel à projet scientifique, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec Laetitia en 2016.
Et on avait eu besoin de vous, pourquoi alors? Pour découvrir ces coraux, c'est ça, Laetitia Edouin? On vous a demandé quel était le mystère ou les animaux ou les végétaux à préserver dans ces océans et ces mers?
Non, en fait, quand Guylain a lancé cet appel à projet, il proposait en fait de mettre son expertise de plongée profonde à la découverte d'écosystèmes. Et moi et d'autres scientifiques, on avait une question qui était, qu'est-ce qu'il y a en dessous de 30 mètres du récif corallien? Parce qu'on connaît très bien les récifs coralliens entre 0 et 30 mètres. Mais dessous, en gros, on considère que, comme on ne sait pas ce qu'il y a, on ne le prend pas en compte. Ouais. Et donc, quand Guylain a proposé, d'aller
beaucoup
d'aider et d'aller plus profond. Et de, voilà, on peut aller découvrir ce qu'il y a sous les 30 mètres. Du coup, pour nous, c'était vraiment une chance incroyable de pouvoir répertorier la diversité du vivant et notamment des coraux qui allaient vivre en dessous de 30 mètres parce qu'on savait en gros pas du tout à quoi s'attendre. Et du coup, c'était vraiment une question de curiosité, de savoir voilà, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces 30 mètres.
Et alors, on va commencer par rappeler le corail, c'est un animal, c'est un végétal, c'est quoi ?
Alors, le corail, c'est un animal. Mmh. Par contre, il a vraiment une particularité, c'est ça qui le rend aussi fascinant, c'est qu'il vit en symbiose avec une algue. Donc, c'est une algue microscopique dans ses tissus. Et cette algue, elle est essentielle à sa survie parce qu'elle lui apporte 90% de son énergie.
Et c'est, le corail protège l'algue, c'est ça ? C'est
un voilà, peu... donc en fait, c'est vraiment une symbiose mutualistique. Que tous les deux vont récupérer des services de cette symbiose, de cette relation. Et donc, l'algue va lui apporter de l'énergie et le corail, lui, lui procure un habitat vu qu'elle est, en gros, cachée dans ses tissus.
Et en Polynésie, il y en a beaucoup, c'est ça ?
Des coraux ?
Ouais.
Ah bah oui, en Polynésie, on a beaucoup de coraux. Hein. On n'a pas une diversité corallienne qui est très, très importante. Il y a à peu près 200 espèces de coraux. Mmh. Mais par contre, on a des fonds marins qui sont assez préservés quand même aujourd'hui.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ensemble, on s'est fixé une mission, un défi, celui d'aller voir la reproduction des coraux, d'arriver à la filmer.
RTL.
C'est un défi qui n'est pas évident. Ça n'a d'ailleurs jamais été fait ici à Mouret, en Polynésie française.
La curiosité est un vilain défaut.
Extrait de la chaîne YouTube de Under the Pole, le projet de notre invité Guylain Bardou et avec vous Laetitia Edouin qui est chargée de recherche au CNRS, basée à Moréa, c'est ça, en Polynésie ?
Oui, c'est ça.
Comment vous dire qu'on est très très jaloux ?
Bah, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas.
En tout cas, c'est très sympa d'être venu jusqu'à nous ici à RTL, à Neuilly. Tiens, extrait de la chaîne YouTube qui parle de la reproduction des coraux, comment fait papa pour aller dans maman ?
Alors, peut-être pas papa et maman, c'est peut-être deux femmes et deux hommes d'ailleurs. Hein.
Alors la reproduction des coraux, c'est très complexe, hein, justement, en fonction des espèces coralliennes. Certains sont à la fois hommes et femmes, et d'autres sont que femmes, et d'autres que mâles. Donc en fait, c'est très diversifié.
Ils doivent s'amuser comme des fous.
Ah bah oui, ils sont beaucoup plus inventifs que
mais
nous.
Mais ils se reproduisent vite, les coraux ?
Alors,
c'est-à-dire, non, est-ce qu'on dit qu'ils disparaissent, il y a le blanchiment des coraux, mais est-ce qu'ils se reproduisent à une bonne
aujourd'hui
une bonne allure?
Alors, en général, la plupart des coraux se reproduisent qu'une seule fois par an. Donc c'est ce qu'on appelle un événement qui est très très rare. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi important de savoir quand est-ce qu'ils se reproduisent pour pouvoir mieux les étudier.
Et donc, il y a eu cette mission Under the Pole 3 en Polynésie avec vous, Guylain Bardou. Et vous êtes descendu jusqu'à, ce qu'on disait tout à l'heure avec Sidonie, 170, 172 mètres. Pourquoi fallait-il aller aussi profond ?
Alors, ce n'était pas un objectif du programme Deep Hope qu'on a monté avec Laetitia et le CRIOB. C'était, originellement, on a travaillé jusqu'à 120 mètres, hein, entre la surface, entre 6 mètres précisément, et puis 120 mètres, mais par contre qu'on a répété de manière systématique sur l'ensemble de la Polynésie. Mais par contre, ce qu'on s'est rendu compte au fil de l'avancée du projet, au fil des mois, c'est que parfois, il y avait peu d'espèces à 120 mètres, ou peu de diversité, peu de une quantité plus faible, et puis d'autres fois, on en avait beaucoup. Et ces fois-là, petit à petit, on est allé voir un peu plus loin pour, tiens, mais ils vivent jusqu'où on descend à 140 mètres, on en trouve parfois pas, et ainsi de suite. Et comme ça, on est descendu à 150, dans l'est de la Polynésie, sur l'archipel des Gambiers précisément, à 120 mètres. On était en train de dérouler le protocole scientifique du programme, et on a trouvé des coraux comme on n'en avait jamais vu autant à 120 mètres.
Et ça ressemble à quoi alors ? Parce que nous, on n'a jamais eu la chance de vivre ça.
On est dans une ambiance avec de la lumière. Hein. Franchement, on n'est pas du tout dans le noir.
On voit comme s'il faisait jour, comme si on plongeait à 3 mètres.
Oui, mais avec moins de couleurs. Ouais, c'est-à-dire qu'on fait ressortir les couleurs. Là, on va utiliser nos phares. D'accord. Et on a une ambiance qui est très particulière. Hein. Quand on se tourne vers le haut, oui, on a la clarté du soleil. Mais quand on se tourne vers le bas, c'est le noir des profondeurs. Mmh. Et on est sur des pentes qui sont assez abruptes, parfois verticales. Donc c'est une ambiance qui est très particulière. On est très concentré.
Ils ressemblent à quoi ces coraux ? Quelle couleur ils ont ? Quelle forme ?
Alors, ils ont des couleurs très variables. À 120 mètres, on est plutôt sur des teintes marron avec différentes nuances, hein, en général, qu'on fait ressortir de manière plus ou moins claire avec nos phares, justement. Par contre, quand on n'éclaire pas, hein, c'est très sombre, c'est très gris, c'est très, très bleu sombre. Voilà.
Vous dites
c'est sur ce site qu'on est allé voir plus bas, et on en a trouvé à 140 mètres. Et à 140 mètres, ils étaient énormes. Et on s'est dit, bon, bah là, on va aller voir plus loin. On est descendu, et à 172 mètres, On a ramené un corail.
Mais vous dites avec nos phares, vous êtes quoi, dans une sorte de capsule? Comment se passent ces plongées en fait?
Alors ça, c'est pas depuis la capsule qui est un programme qu'on a mené après, cet habitat sous-marin. Là, on est vraiment sur des plongées d'incursion avec des scaphandres qu'on appelle des recycleurs. Mmh. On est toute une équipe. On a des scientifiques en surface. On a ce bateau, le WAI, qui est le bateau des expéditions Under the Pole, qui nous sert un peu de plateforme logistique. Et tous les jours, depuis un semi-rigide, on se met à l'eau par équipe, on descend, on travaille, on remonte et au fil du temps, c'est comme ça qu'on a acquis cette banque d'échantillons pour le programme scientifique.
Alors vous aviez cette curiosité, vous employez sans cesse ce mot, Laetitia Edouin, de savoir à quoi ressemblaient les coraux au-dessous de 30 mètres. Donc Guilin et son équipe rapportent des échantillons. Qu'est-ce que vous avez découvert? Vous avez découvert sur l'adaptation, par exemple, de ces coraux aux profondeurs?
On a découvert qu'ils étaient capables de vivre dans des environnements auxquels on n'aurait pas pensé. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous descendez, moins vous avez de lumière. Or, le corail, c'est un organisme qui dépend de la lumière, justement parce qu'il vit avec cette algue et que cette algue va faire de la photosynthèse. Et donc, en gros, le pétrole du corail, son carburant, en quelque sorte, c'est la lumière. Et donc, quand vous êtes à 172 mètres, il n'y a quasi pas de lumière. Et du coup, ça a soulevé énormément de questions sur, comment arrive-t-il à vivre à cette profondeur?
Vous
alors
avez la question
qu'il n'y a pas de lumière.
La réponse, pardon?
La réponse, alors la question, on commence à avoir quelques réponses. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a beaucoup parlé de la relation du corail avec ses algues microscopiques, mais on s'aperçoit qu'il vit aussi avec d'autres algues qu'on appelle des algues endolithiques qui vivent dans son squelette corallien et qui pourraient aussi lui apporter de l'énergie et lui transférer du carbone notamment.
Alors pour pouvoir les observer sur la longueur, ces coraux, parce que même si vous plongez, vous ne pouvez pas rester évidemment des heures les regarder, vous avez construit, imaginez, une capsule, Guilin Bardou. Elle ressemble à quoi? Elle fonctionne comment?
Alors la capsule, c'est le programme qui a suivi Deep Hope. C'est physiquement, c'est un habitat sous-marin, mais très simple, très rudimentaire.
Il y a quoi dedans?
Alors dedans, il y a de l'électronique. C'est un cylindre en aluminium en fait, qui fait 2 mètres de long et 1,50 m de diamètre, avec deux grands dômes en plexi aux deux extrémités et qui nous permettent justement de voir le récif à 360 degrés. À l'intérieur, on a de l'électronique de contrôle qui va nous permettre de contrôler l'atmosphère qu'on respire et puis des sécurités, des alarmes, tout ça. Et puis un système de télécommunication.
Je suis pragmatique, il n'y a pas de lit.
Ah si, bien sûr.
Moi, j'ai d'abord pensé à ça, mais
alors,
enfin, d'abord
aussi, c'est normal. Vous y passez combien de temps quoi?
On y a passé. L'objectif, c'était d'y passer 3 jours. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait une première plongée de 24 heures, qui était une plongée test. Et ensuite, on a enchaîné des plongées de 3 jours sur une période de 2 mois.
Avec de quoi manger? Comment on se débrouille 3 jours?
Dans l'équipe, il y a plutôt un paquet de gros mangeurs. Et puis, la plongée, ça creuse. Donc, non, on mange bien. Et puis, on dort, on mange. On sort de la capsule en plongée. On y revient. Et on enchaîne un petit peu comme
vous
ça.
Vous l'avez expérimenté,
pendant 72 heures, le jour et la nuit.
Non, alors moi j'ai juste fait une brève incursion, mais non, j'ai pas passé 3 jours dans la capsule. La réglementation scientifique du CNRS en matière de plongée ne nous permet pas de passer 3 jours dans la capsule, donc voilà.
Je vais vous présenter mon bateau.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Ici, nous réalisons nos différents projets scientifiques, nos expériences, etc. Nous développons nos prises de vue et possédons une salle de montage à bord pour pouvoir monter nos films au fur et à mesure. Voici la bulle d'observation que j'ai créée d'après un rêve que j'ai fait. Sous l'océan.
Extrait du film de Wes Anderson, La vie aquatique. Ils ont créé une bulle et bien notre invité lui a créé une capsule pour pouvoir observer les fonds marins et notamment en Polynésie française et les coraux aussi, qui sont des merveilles qu'il faut protéger, ils sont très fragiles et c'est pour ça que dans la curiosité on a envie de vous les faire découvrir. Guilin Bardou, vous êtes le directeur fondateur des expéditions Under the Pole. On a envie de plonger encore avec vous et de voir à quoi ressemblent ces coraux dans leur milieu naturel. Est-ce que vous avez en tête l'une de vos plus magiques plongées?
Alors il y en a beaucoup, beaucoup, c'est énormément de souvenirs, toutes ces incursions dans ce milieu sauvage.
Il y en a 800, c'est ça, 800 plongées.
Alors sur le programme Deep Hope, il y a eu 800 plongées profondes, essentiellement profondes. Une anecdote, c'est, alors je pense qu'on est sur l'atoll de Tikehau, donc sur les Tuamotu. Et c'est un site qui avait été plongé par Cousteau d'ailleurs à l'époque. On déroulait notre programme.
C'est-à-dire quoi, dérouler le programme?
Alors, c'est-à-dire
descendre
que sur l'ensemble des plongées qu'on a faites. Mmh. On a travaillé sur 12 îles au total, et donc sur 24 sites de travail, puisqu'il y avait 2 sites par île, sur l'ensemble des 5 archipels de la Polynésie française. Et donc là, on était sur un de nos 2 sites, c'est à peu près une semaine de travail, plusieurs plongées, on descend à 120 mètres, et on commence à échantillonner, à faire les photos, à poser les capteurs, et puis on remonte à 90, à 60, etc. Et à chaque fois, à chaque profondeur cible, on déroule le même programme. Et là, en quittant la zone des 120 mètres, on remonte en surface, on remonte à une profondeur inférieure, mais en passant par une immense grotte. Alors c'est grand, il faut visualiser un peu comme une station de métro, hein, littéralement. C'est peut-être 10-15 mètres de diamètre, et puis il y a une succession de tubes, on va dire, hein, avec, quand on regarde vers le haut, on voit la sortie. Et c'est une ambiance qui est très spéciale, parce qu'on est profond, avec l'engagement de la profondeur. Mmh. C'est sombre, un petit côté spéléo, et puis en même temps on a ce halo de lumière dans lequel passent des requins gris. Et en fait c'est un site qui est connu, très peu fréquenté parce que profond, et on savait qu'il pouvait y avoir des requins gris, et cette fois-là, à l'extérieur, il n'y en avait aucun. Et à l'intérieur, il y en avait énormément. Donc, c'est une ambiance qui est très particulière. Dans la grotte, on est très concentré. Oui. Et en même temps, c'est complètement fascinant parce que on est dans un monde totalement sauvage. Oui. Et c'est des sensations qui sont rarement éprouvées. C'est des sensations qui sont très puissantes. On y est retourné d'autres fois. Et les requins n'étaient pas forcément à l'intérieur, d'ailleurs, mais à l'extérieur. Voilà, ça change.
Et on va en profiter pour faire passer le message que les requins, dans cet environnement-là, ils ne vous font pas particulièrement peur. Vous êtes dans quelle situation ?
Non, pas particulièrement peur, mais par contre, ça reste un monde sauvage, ça reste des animaux sauvages qu'il faut connaître. Donc, on est toujours attentif, on est toujours observateur.
Il n'y a pas de gestes brusques, c'est ça ?
Non, il n'y a pas spécialement de danger. Hein, mais par contre, c'est comme toujours, hein, vous savez, le monde sauvage, il faut toujours être humble, l'observer attentivement, prendre le temps. Et puis, dans ces cas-là, ça se passe bien en général.
Est-ce que cette grotte était tapissée de corail, de coraux ?
Alors, à l'intérieur de la grotte, je ne peux pas vous dire parce qu'on ne l'a pas scruté. Hein, on était plus en remontée entre la profondeur de travail de 90 et de 120 mètres, pardon, et celle de 60 mètres. Donc, on était plus de passage. Après, on est dans une grotte, donc il y a peu, voire pas du tout de lumière. Donc, en général, non, c'est des espaces où on ne va pas trouver, en tout cas, les coraux qu'on cherche. Mmh.
Laetitia Edouin, je rappelle que vous êtes chargée de recherche au CNRS. Vous travaillez au CRIOB, Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement, à Moréa, on est donc en Polynésie française évidemment. Ce corail, on dit qu'il blanchit. C'est un, est-ce que c'est vrai ? Et deux, c'est un signe de mauvaise santé ?
Alors oui, c'est vrai malheureusement. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le corail blanchit, c'est qu'il perd les petites algues donc, qui vivent dans ses tissus. Mmh. Et donc s'il perd ses algues, il perd tout apport d'énergie qu'il peut avoir. Et donc en quelque sorte, c'est comme si il arrêtait de manger pendant plusieurs jours. Et donc au bout d'un moment, forcément, plus il blanchit, plus il devient affamé. Et c'est comme vous, si au bout d'une semaine, vous n'avez pas mangé, à un certain moment, vous pouvez mourir.
Mmh. Qu'est-ce qui fait blanchir le corail ?
Alors c'est l'augmentation anormale de la température de l'eau. C'est principalement ça. La raison pour laquelle les coraux blanchissent, c'est qu'on entend parler hein, ces 4-5 dernières années d'épisodes de blanchissement massif comme celui de 2016 par exemple sur la Grande Barrière de Corail hein, dont normalement quasi tout le monde a entendu parler hein, parce qu'on est venu en quelque sorte toucher un peu l'icône des récifs coralliens. La Grande Barrière de Corail, c'est le joyau
c'est où déjà ?
En Australie. Donc voilà, donc effectivement on en entend beaucoup parler parce qu'on a des problèmes de réchauffement climatique globaux et le corail est effectivement malmené par cette élévation de la température.
Et ça a un impact sur toute la biodiversité parce que le corail c'est un peu comme un immeuble dans lequel il y a plein d'habitants, on peut dire ça ?
Oui, voilà, on dit souvent que le corail, c'est le bâtisseur des récifs coralliens. Donc, le corail, c'est l'organisme qui va construire les fondations d'une maison. Mmh. Et dans cette maison, on a un quart de la biodiversité marine qui s'y trouve. Donc, c'est vraiment lui qui va édifier une structure en 3 dimensions. Et après, à l'intérieur, on va trouver des milliers d'espèces. Et c'est ça aussi qui fait la beauté des récifs coralliens, c'est leur biodiversité exceptionnelle. Et du coup, quand le corail meurt, eh bien, en quelque sorte, on touche tous ces autres animaux qui dépendent du récif corallien.
Est-ce que grâce aux plongées, à l'expertise de l'équipe de Guylain Bardou et Under the Pole, vous avez vu que ce corail était particulièrement en danger en Polynésie française ?
Alors, je dirais oui et non en fonction des observations qu'on a fait. On a fait notamment des observations en 2019, lorsque le programme était là encore. On a eu un épisode de blanchissement à Moréa. Et donc, grâce donc, à Aguilin et son équipe, on a pu évaluer le blanchissement qu'il y avait en surface jusqu'à 120 mètres de profondeur. Et donc, les données qu'ils nous ont rapportées étaient très intéressantes parce qu'on s'est vraiment aperçu qu'il y avait beaucoup moins de blanchissement dans les profondeurs. Dans la zone de 90-120 mètres, il y avait beaucoup moins de coraux qui étaient atteints. Donc pour vous donner un exemple, on avait à peu près 50% des coraux qui étaient blanchis dans la zone de 6 mètres et on avait moins de 10% à 90 mètres. Donc le blanchissement était très localisé dans la zone de surface. Et donc c'est pour ça qu'on dit vraiment que c'est les récifs de surface qui sont vraiment plus atteints par ce problème de réchauffement climatique.
Guylain Bardou, tous les échantillons de coraux que vous avez rapportés, ils vont être analysés pendant combien de temps ? L'objectif, c'est quoi ? De pouvoir les protéger mieux ?
Alors les échantillons, il y a eu une collecte importante, hein, puisque c'est 12 mois de terrain, c'est 24 sites de travail. Ces échantillons, ils ont été ramenés au CRIOB, donc c'est Laetitia Hédouin qui s'occupe de la gestion. Après, il faut savoir que derrière Laetitia Hédouin et le CRIOB, il y a tout un consortium de scientifiques internationaux, avec je crois une douzaine de chercheurs, une huitaine d'instituts de recherche. Et donc les échantillons vont être répartis par spécialité dans les différents laboratoires pour avoir un travail sur la génétique, sur la taxonomie, voilà, selon les spécialistes. Et c'est que le début de ce travail scientifique. Un programme scientifique de cette ampleur-là, c'est plusieurs années. Il y a la préparation qui est très longue. Il y a 12 mois de terrain, c'est long. Ça en fait un programme conséquent. Et maintenant, depuis quelques mois, on est rentré dans la partie laboratoire, si je puis dire, et qui va durer plusieurs années et délivrer ses résultats, ses publications au fil des mois.
Et pour suivre ces résultats et vos aventures, on peut aller sur votre site. Il est magnifique, plein d'infos. underthepole.com. Et puis, il y a un film aussi qui sera diffusé sur Thalassa, France 3, à la fin du mois de février. Bon vent, merci à vous.
Merci à tous les deux, c'était passionnant, merci.
Merci, au revoir.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.